Olivier Vallée, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi les deux anciens présidents se détachent au premier tour?
Parce que ce sont les seules personnalités qui ont une véritable crédibilité nationale. Ce sont également les deux mouvements politiques qui disposent le plus de ressources financières et humaines.
Et c'est vrai que ces deux candidats ont déployé de gros moyens, meetings, hélicoptères et même feux d'artifice.
Oui, ça a été une véritable explosion. Ravalomanan jouant plutôt, oui, la proximité, même s'il vient souvent dans des zones qui sont des zones inaccessibles en hélicoptère, et dans le cas de Razzolin, on a des actions de caractère humanitaire à grand spectacle, mais aussi beaucoup d'exaltation, de la fête, avec des chants, un petit peu chacun dans son répertoire de métier.
Pourquoi le président sortant, R. Razonar Morpian, a-t-il fait un si mauvais score?
Ce que les Malgaches ont désavoué, c'est la perpétuation d'un régime qui n'avait pas changé fondamentalement par rapport à celui amorcé pendant la haute transition avec l'autoritarisme populiste de Razzolin.
Il n'y avait pas eu de progrès visible depuis 2013.
Non, les principaux progrès enregistrés sont des progrès en termes d'indicateurs économiques. Tout le monde sait que les indicateurs, ça ne fait pas rouler les voitures et que ça ne permet pas de se nourrir non plus.
On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance.
Exactement, et il faut reconnaître à Andr Razzolin qu'il avait des opérations assez spectaculaires, la création d'hôpitaux dans les principales capitales régionales avec l'aide des Chinois, l'extension du réseau routier dans une période qui était une période quand même extrêmement tendue en termes de finances publiques puisqu'il recevait quasiment pas d'appui extérieur. Il a réussi à augmenter les fonctionnaires, à augmenter les militaires et donc son passage est certainement plus satisfaisant pour un certain nombre de membres de la société, en particulier les classes moyennes et les plus riches.
Certains disent que l'électorat d'Andr Razzolin est plus populaire que les autres électorats.
Je pense que les grands électeurs de Razzolin sont principalement tous les groupes, en particulier indo-pakistanais, mais aussi un certain nombre d'opérateurs de la zone franche industrielle qui sont liés à des intérêts malgaches, mais aussi toute une frange de malgaches dans le secteur du tourisme, dans le secteur du commerce, dans le secteur de l'import, de l'export, qui ont bénéficié du libéralisme économique de Razzolin et de ce qu'on pourrait appeler aussi une dérégulation du fonctionnement de l'économie, une stabilisation relative de l'ariar, la monnaie nationale, qui a permis à beaucoup de gens de continuer à profiter des devises dont ils avaient au cours de change sans être perdants à l'échelon national. Donc ces gens-là sont capables, en tant que grands électeurs, de mobiliser des foules, voire des foules d'émeutiers, comme on l'a vu dans la capitale lors des événements d'avril, et ensuite quand il s'agissait de faire pression sur R. Donc c'est la reconnaissance de sa capacité à jouer très habilement du populisme.
Marc Ravalomanan a été renversé par la rue et par l'armée. Comment se fait-il que la rue, ou du moins une partie d'entre elles, ait voté pour lui à ce premier tour?
Ça reste le mystère de 2009. Est-ce que ce n'est pas une révolution de palais plutôt qu'une révolution de rue avec finalement un tout petit régiment et non pas l'ensemble de l'armée? Donc pour tous ceux qui n'aimaient pas Ravalomanan, c'est à peu près les mêmes intérêts que ceux que j'ai cités tout à l'heure, les intérêts indo-pakistanais, les intérêts français. C'était quand même un bon moyen pour se débarrasser de Ravalomanan.
À la veille de la publication des résultats du premier tour, les forces de l'ordre malgaches ont appelé les candidats à éviter toute provocation portant atteinte à l'ordre. Est-ce à dire que l'armée a joué un rôle lors de ce premier tour?
L'armée a joué un rôle plus effacé qu'en 2013, dans la mesure où en 2013, l'armée devait tenir à distance le candidat Ravalomanan, ce qu'elle a fait en interdisant physiquement son atterrissage avant les élections. Et aujourd'hui, elle a pu observer un équilibre. Je pense qu'elle sortira de cette relative réserve, la connaissant, uniquement si justement un des deux candidats allait trop loin dans la remise en cause du processus en cours.
Est-ce que les officiers anti-Ravalomanan de 2009 ont encore du poids?
Ils ont beaucoup moins de poids qu'auparavant, dans la mesure où R se méfiait d'eux, non pas en raison de leur opposition à Ravalomanan, mais en raison de leur fidélité et de leur engagement auprès de Razzolin. Donc ils ont été plus ou moins épurés, mais avec beaucoup d'égards, beaucoup de récompenses. Ravalomanan lui-même a compris qu'il était nécessaire d'arriver à un accord tacite avec toutes les composantes de l'armée.
Et les très riches barons du Bois de Rose, est-ce qu'ils ont pesé dans ce premier tour?
Oui, ils ont pesé très lourd pour que leur camp candidat, qui est le président sortant, puisqu'il avait permis, en fait, pendant toute sa présidence, le développement de l'exploitation et de l'exportation illégale du bois de rose qui avait déjà été entamé à l'époque de Radzoel. Donc, ils ont pesé très lourd, à la fois en obligeant les auteurs des lois électorales à les réviser. Donc, c'est eux qui ont financé, qui ont menacé en tant que députés le président R. Donc, en permettant ensuite qu'il y ait deux candidats qui se présentent. Et ensuite, ils ont joué un rôle très important en soutenant dans leur région le candidat R de façon à se ménager le choix qui devrait être le meilleur pour eux au second tour.
Alors justement, ce second tour, Olivier Vallée, au vu de la cartographie du premier tour, qui est le mieux placé pour le gagner?
Si on compte le nombre de régions et puis bien entendu le score, c'est le candidat Radzoline qui l'a emporté dans le plus de régions à Madagascar, avec immédiatement des nuances, parce que les points positifs pour Avalomanad, c'est que lui, il est élu dans les régions les plus densément peuplées, et en particulier sur les hauts plateaux, ce qui veut donc dire que l'autre candidat Merne, c'est-à-dire Radzoline, n'est pas reçu, n'est pas perçu comme un véritable nationaliste Merne, ce que Ravalomanan incarne à la fois par son ethos. Il parle mieux le malgache et l'anglais que le français. Il a toujours eu des positions beaucoup plus nationalistes, se référant à l'histoire du royaume que Radzoline. Donc il a aussi une base électorale solide. Le fait que Marc Ravalomanan soit un dignitaire de l'église protestante calviniste, que les évangéliques et que les Américains qui sont derrière ces églises évangéliques le regardent d'un bon œil, constituent des atouts non négligeables.
Avec ces 9%, R. Razonarmampian va donner une consigne de vote qui sera déterminante. Pour qui peut-il pencher?
En raison du passif qui s'est accumulé, parce qu'il ne faut pas oublier que R. n'était pas le candidat de Radzoel en 2013. C'est lui qui s'est imposé par un coup de force. Je crois que le divorce est consommé entre les deux hommes.
Entre Razonarmampian et Radzoel.
Tout à fait. Et que tout l'incite à se rapprocher de Marc Ravalomanan. Je l'évoque dans la dernière partie de mon livre. Je pense que c'est lui qui a laissé rentrer Marc Ravalomanan, d'une certaine façon en feintant l'armée et la police, et que donc il s'entendait déjà assez bien en 2013.
Depuis quelques jours, tous les candidats, même Ange Radzoel, qui est arrivé premier, contestent les résultats du premier tour. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour la suite?
Si, c'est très inquiétant. On peut se dire d'un certain côté que c'est un rituel, mais le fait que le premier rentre aussi frontalement dans le décomptage de la CENI est assez mauvais signe, parce que ça la disqualifie pour le second tour. Donc beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. La HCC, la Haute Cour constitutionnelle, dont on sait qu'elle est capable d'un certain nombre de revirements, elle l'a montré dans le passé, a-t-elle changé? Je n'en présume rien. Il faut quand même penser qu'on pourrait se trouver dans une véritable situation de crise institutionnelle si la HCC contestait d'une façon dirimante le comptage de la CENI, qui n'est pas tout à fait terminé, mais qui ne peut plus maintenant renverser les tendances qui ont été dégagées.
Olivier Vallée, merci.